Bonjour à tous. Dernier jour de notre série sur les travailleurs indépendants au temps du Covid. Cette semaine, nous avons infiltré les cabinets d'avocats et de notaires et pris la mesure du poids économique et politique des petits entrepreneurs. Artisans, commerçants, médecins de ville, ils ont choisi d'être indépendants, contrairement à certains travailleurs de la gig economy, l'économie à la tâche. Dans l'état américain qui lui a donné naissance, la Californie, les plateformes numériques viennent de remporter une grande victoire. Elles ne seront pas obligées de requalifier leurs chauffeurs et livreurs en salariés. Une décision adoptée par référendum qui ouvre une réflexion plus vaste sur le droit du travail à l'ère digitale. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler des gig workers, des travailleurs des plateformes, en compagnie de Sophie Bernard, professeure de sociologie à Paris Dauphine, chercheuse au laboratoire IRISO, en compagnie également d'Arnaud Kudenek, enseignant-chercheur à l'Université Polytechnique de Hong Kong et spécialiste de sociologie économique. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Sophie Bernard et Arnaud Kudenek, bonjour.
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 Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, d'abord, comment définir la gig économie, Sophie Bernard, qu'on peut traduire par économie à la tâche ou économie des petits boulots?
Mais il s'agit en fait dans la gig economy de déléguer le travail à des travailleurs indépendants qui vont être payés donc à la tâche et donc parfois même sur des micro-tâches donc qui sont totalement éloignées justement du salariat.
Le terme gig était utilisé au départ par les musiciens qui jouaient au cachet et donc c'est un modèle économique basé sur le non-salariat des travailleurs qui facturent leurs prestations.
Oui, tout à fait. Il s'agit de déléguer à des travailleurs indépendants ce qui pourrait être fait par des travailleurs salariés, donc à une multitude de travailleurs. Et ça couvre aujourd'hui donc une diversité de secteurs. Et ça s'est largement développé avec le déploiement des plateformes numériques qui servent d'intermédiaires et qui peuvent distribuer justement ces tâches plus facilement.
Alors justement, Arnaud Kudenek, quels sont les différents types de tâches qui sont proposées par ces plateformes numériques?
Voilà, donc les plateformes numériques sont un acteur principal de ce nouveau pan de l'économie, mais en fait, le terme de plateforme est lui-même relativement équivoque, puisqu'on peut le trouver dans différents types d'activités. Donc ça peut être des plateformes publicitaires, on peut penser à Google, Facebook, etc., ou des plateformes de jeux en ligne, des plateformes de contribution coopérative, ou Wikipédia par exemple. Et en fait, les plateformes de la gig economy sont relativement différentes. Et c'est typiquement Uber ou Deliveroo, par exemple. Et là où elles sont encore plus ambiguës, c'est qu'elles interviennent dans des secteurs, une diversité de secteurs traditionnels de l'économie. Donc on peut les voir dans le transport, dans les livraisons, mais également dans l'informatique ou l'événementiel ou le service à la personne. Et donc c'est ce qui fait tout un écosystème de ces nouvelles plateformes.
Et ce qui intrigue, c'est qu'elles proposent des tâches extrêmement différentes. On pense par exemple à ce qui est le plus connu, alors ce sont les chauffeurs de VTC, les livreurs, mais il y a aussi les online freelance, ces travailleurs qui effectuent à distance des tâches complexes, ou encore les travailleurs du clic qui effectuent des micro-tâches assez simples. Sophie Bernard, il y a toute une diversité de tâches qui sont proposées.
Il y a toute une diversité et en réalité, quand on s'intéresse même à un seul profil en particulier, on s'aperçoit que derrière, il y a des pratiques aussi extrêmement différentes. Donc on peut voir parmi les chauffeurs Uber, par exemple, une appropriation de la plateforme qui peut être extrêmement variable d'un chauffeur à l'autre. Donc de fait, des tâches très diversifiées, mais en plus, au sein même d'un même métier, derrière une même appellation, quand on parle des chauffeurs Uber, en fait, on a derrière des conditions de travail qui peuvent être assez diverses.
Alors justement, on va voir quel portrait sociologique des travailleurs des plateformes on peut dresser. Mais d'abord, un petit bilan de la crise économique que l'on traverse actuellement. On l'a vu, évidemment, de nombreux secteurs de l'économie souffrent durement de ce deuxième confinement. Mais ce n'est pas le cas de la livraison à domicile qui explose littéralement depuis le début de la pandémie, Arnaud Kudenek.
Et oui, en effet. Et en plus, on voit, par exemple, si on prend le cas de Uber, donc on peut voir qu'ils ont en fait souffert d'une forme de confinement, notamment les chauffeurs. En revanche, à l'inverse, les livreurs, et notamment les livreurs à vélo, par exemple, Uber Eats ou Deliveroo, ont de leur côté profité de cette situation. Et donc, je vais dans le sens en fait de Sophie Bernard, qui aussi insiste sur l'hétérogénéité de tous ces travailleurs, donc au sein des plateformes, mais entre les différents types d'activités.
Alors, ce sont des travailleurs qui, effectivement, sont extrêmement différents, qui n'ont pas forcément les mêmes envies entre flexibilité et sécurité. Et ces livraisons, qui sont de plus en plus nombreuses, reposent donc sur des travailleurs qui sont souvent très précaires. C'est ce que nous explique Chloé Lebas, qui est doctorante en sciences politiques à l'Université de Lille, et également Jérôme, qui, lui, est livreur à vélo.
Pour devenir livreur, il suffit de créer un compte de micro-entrepreneur maintenant auprès de l'URSSAF. Donc pour ça, on vous demande vraiment des informations minimales. Par contre, on vous demande des papiers à jour et réglementaires. Pour soulever un compte, il suffit de demander à un livreur qui, lui, est en règle, donc est français ou a des papiers européens, de louer son compte, c'est-à-dire de travailler pour lui. En général, les livreurs qui sous-louent leur compte demandent un pourcentage. Ça va entre 30 et 40% en général. Donc c'est une sorte de sous-traitance par des sous-traitants. Donc on a trois niveaux de prise en charge de décision entre la plateforme, le livreur et le locataire du compte. Et donc bien souvent ce sont des travailleurs sans papier qui ne peuvent pas légalement travailler et qui donc se font exploiter et peuvent donner jusqu'à 60% de leur chiffre d'affaires.
T'as des gens qui disent « Tiens, c'est cool, le VTC Uber me permet d'avoir un service de luxe pas cher ». Moins cher que le taxi. Mais qui est-ce qui paye la différence? C'est le mec qui est dans sa bagnole. Donc qui c'est qui paye la différence? C'est le mec qui est sur son vélo parce qu'il livre des burgers. Le livreur, il donne le paquet. En même temps qu'il donne le paquet, il donne aussi une part de ses jambes, en fait. Une part de sa vie, une part de ses risques qu'il a pris toute la journée. 5, 6, 7 heures, 10 heures par jour. 10 heures par jour à vélo dans Paris, je peux vous garantir que c'est autre chose que 10 heures dans sa bagnole. Parce qu'on n'a pas de chauffage, on n'a pas de musique, on n'a pas de clim, on n'a pas d'airbag.
Voilà, les livreurs à vélo travaillent dans des conditions qui sont particulièrement difficiles. Et c'est pire encore pour ceux qui sous-louent un compte de livraison, phénomène qui existait déjà avant, mais qui s'est accentué avec la pandémie, Sophie Bernard.
Alors, qui s'est probablement accentué, mais qu'on va aussi retrouver en fait du côté des chauffeurs Uber, c'est que quand Uber s'est implanté en France en 2012, vous pouviez exercer avec deux statuts, soit la licence de VTC, soit la licence de loti. La licence de loti, l'avantage, c'est que à partir du moment où vous l'avez, vous pouvez employer des chauffeurs qui travaillent pour vous, mais qui n'ont besoin jusque-là que du permis de conduire. Et donc à partir de là, en fait, on a vu exploser le nombre de chauffeurs parce qu'il y avait une facilité à devenir chauffeur du jour au lendemain. Par contre, ces intermédiaires lotis, eux, justement, dans le même cas que ce qui a été mentionné auparavant, en fait, ils louaient la voiture, une voiture, mais en prenant un forfait journalier d'environ autour de 90 euros par jour, plus après un pourcentage des courses qui pouvait être de 40% sur le prix des courses. Donc des chauffeurs qui dans ces cas-là en fait se trouvent face à deux intermédiaires, à la fois le loti et à la fois la plateforme à laquelle il faut verser donc 25% de commission. Donc ceux-là en fait étaient vraiment dans une situation extrêmement précaire, à la limite de la légalité. Ce statut a été supprimé avec l'application de la loi Grandguillaume en 2018. Mais aujourd'hui, donc, il faut obligatoirement une licence de VTC pour exercer. Mais on continue d'avoir des chauffeurs qui, en fait, travaillent de manière plus ou moins formelle pour d'autres chauffeurs, mais avec des contrats souvent déclarés à temps partiel, mais en réalité à temps plein, voire très très plein. Et donc tout un tas aussi de chauffeurs qui utilisent des comptes aussi, mais de manière totalement illégale, qui les sous-louent de la même manière que chez les livreurs. Après, c'est dur à quantifier, de fait, puisque ça relève d'une économie totalement informelle.
Arnaud Cudennec.
Oui, en effet, c'est dur à quantifier et on voit bien le flou qu'il y a dans cette économie, finalement. Alors, on peut quand même citer quelques chiffres. En fait, Uber a sorti une étude sur le revenu de leurs chauffeurs. Et donc il se trouve que le chiffre d'affaires médian en fait serait de 25 euros net de l'heure, Mais si on enlève toutes les charges structurelles type l'essence, l'assurance, etc., on aboutit à environ 9 euros pour 45 heures, ce qui en fait est l'équivalent de 7,12 euros pour 35 heures, ce qui est en fait inférieur au SMIC. Donc, rapporté à 35 heures par semaine, finalement, ces chauffeurs gagneraient moins que le SMIC. Et on a d'autres chiffres des syndicats qui citeraient un revenu plus proche des 4,50 euros de l'heure. Donc, difficile de savoir finalement précisément le revenu médian ou moyen, mais finalement, on voit que la situation dans tous les cas est précaire. Et on peut voir que certains chauffeurs également peuvent travailler jusqu'à 15-16 heures par jour.
Et c'est d'autant plus difficile de le savoir, Arnaud Kudennec, que pour beaucoup de travailleurs, il s'agit d'une activité à temps plein, mais pour d'autres, il s'agit simplement d'une activité pour arrondir les fins de mois.
Oui, c'est ça. En fait, notamment, il y avait des études aux États-Unis qui montraient que la plupart du temps, ces activités sont en fait une activité secondaire. Et d'ailleurs, c'est pas une bonne nouvelle qu'on voit aux États-Unis une sorte de cumul des emplois. Mais finalement, en 2017, ils estimaient que pour ces chauffeurs-là, leur revenu, découlant de Uber, représentait 25% de leur revenu total. Alors, en France, lorsqu'elle est pratiquée, cette activité est majoritairement principale. Mais surtout pour le cas des chauffeurs. En fait, pour le cas des livreurs à vélo, généralement, c'est un profil plus jeune, plus étudiant. Et dans ce cas, c'est plutôt un choix pour avoir un complément de revenu.
Alors, selon une enquête de 2018 du Bureau international du travail, les travailleurs des plateformes ont en moyenne 33 ans, 4 sur 5 sont des hommes et 6 sur 10 sont diplômés de l'université, niveau licence ou diplôme de troisième cycle. Sophie Bernard, c'est à peu près le portrait sociologique que l'on peut dresser.
Alors en fait, on a une très forte hétérogénéité parmi les chauffeurs là pour le coup, parce que c'est ceux-là que j'ai les chauffeurs Uber, c'est ceux-là que j'ai étudié et avec auprès d'eux que j'ai mené l'enquête. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une hétérogénéité parce qu'en fait, alors en effet, comme ça a été dit juste avant, de fait, en France, c'est une activité principale, donc à temps plein, pas une activité secondaire en effet comme aux États-Unis la plupart du temps, mais par contre, vous avez un peu deux profils. Alors, c'est plus hétérogène que ça, mais si on veut un peu simplifier les choses, vous avez d'un côté, en fait, des chauffeurs qui travaillent exclusivement par l'intermédiaire des applications, voire exclusivement par l'intermédiaire d'Uber. Et qui eux en fait sont dans la situation la plus difficile parce qu'en effet leurs revenus ne sont pas très très élevés, ils font énormément d'heures pour pouvoir s'en sortir et eux sont plutôt peu diplômés et ont trouvé ici une possibilité de en fait on les a fait un peu rêver parce qu'ils l'ont vu comme une possibilité d'ascension sociale en se disant je vais bien gagner ma vie, j'aurai plus de patron. Et puis en fait, ils déchantent rapidement. Ils ont travaillé auparavant dans des secteurs aux conditions de travail difficiles, avec des faibles niveaux de rémunération, que ce soit dans la logistique par exemple, ou dans la livraison. Et ils déchantent assez rapidement au fur et à mesure. Donc vous avez ceux-là. Et puis de l'autre côté, en fait, vous avez des chauffeurs qui eux sont les héritiers de la grande remise et qui eux en fait ont développé une clientèle privée et pour lesquels en fait les applications type Uber sont juste complémentaires. Et donc pour eux en fait, c'est vraiment des travailleurs indépendants parce qu'en fait ils ont la possibilité quand même ils craignent moins d'être déconnectés par Uber par exemple, ils craignent moins la notation des clients parce qu'ils ont leur clientèle privée.
Effectivement, ce qui
et
se
en
joue.
Même temps,
allez-y.
Oui, pardon. Et en même temps, leur situation est de plus en plus compliquée parce qu'en fait, il faut qu'ils démarchent leur clientèle et ils sont confrontés à la concurrence d'Uber qui propose des tarifs plus bas. Donc c'est beaucoup plus difficile pour eux de garder leur clientèle. Donc même pour eux, ça devient plus difficile.
Mais vous avez prononcé le mot-clé, Sophie Bernard, la dépendance. En réalité, c'est ça qui est intéressant et que l'on va explorer tout au long de cette émission, des travailleurs indépendants qui seraient dépendants économiquement. J'aimerais vous faire entendre le témoignage de Malik, il est chauffeur Uber et lui, il y trouve son compte. On l'écoute.
Ça fait un an que je fais ce travail. Je suis rappeur aussi. Je fais les deux en même temps et ça me permet de vivre. Avant, j'étais fonctionnaire 10 ans et j'ai arrêté parce que ça me permettait pas d'être assez libre et que je trouvais que c'était pas pour le temps que ça prenait, l'énergie que ça prenait, c'était pas assez. Je fais en fonction de mes besoins. C'est pour ça que j'ai choisi Uber, parce que ça me permet de faire ce que j'ai envie à côté et pouvoir des semaines où me prendre du repos, partir, ou justement carburer, faire beaucoup plus d'heures. Bon, sachant qu'on est quand même limité à la journée. Des fois, je vais commencer à 16h, je termine à 2-3 heures du matin. Des fois, je vais me lever tôt, je vais me lever à 8 heures du matin, je vais bosser jusqu'à 16 heures. Et puis aussi, après, il y a les rendez-vous, il y a les trucs personnels de la vie. Par exemple, je dois aller voir quelqu'un à l'hôpital, ben, je m'arrête 4-5 heures. J'ai pas de journée à poser, j'ai pas de congé à poser. Et donc voilà, ça me permet de gérer ma passion, de m'arrêter, d'aller 4-5 heures au studio, de faire un son, de m'arrêter dans un café, discuter une heure ou deux avec un caméraman pour parler d'un clip et voilà.
Voilà un témoignage diffusé le 13 septembre 2018 dans Les Pieds sur Terre sur France Culture. Arnaud Cudenec, là où le travail sur plateforme est très ambivalent, c'est qu'il comporte aussi des avantages non négligeables.
Oui, justement, en fait, c'est, on l'a vu, c'est une sorte d'alternative à une situation d'emploi qui, par ailleurs, ne pouvait pas forcément les convenir. Il faut également souligner que sociologiquement, cette population est souvent issue de milieux populaires, voire défavorisés, parfois issus de l'immigration, et qui, ces gens-là tentent d'éviter une discrimination à l'embauche par ailleurs. Et donc, il y a une sorte de facilité à travailler sur ces plateformes. Et donc, effectivement, on aura toujours une population, et c'est difficile par contre de quantifier la part, mais qui sera très avantagée, ou du moins qui sera très attirée par ce modèle économique.
Mais alors le problème, évidemment, il faut y venir, c'est que sur le plan juridique, Sophie Bernard, ces travailleurs se trouvent à la croisée de deux statuts, salariés et indépendants.
Oui, tout à fait. En fait, disons qu'aujourd'hui, en tous les cas, il y a un grand nombre de contentieux à ce propos, puisque de fait, ils ont le statut indépendant. Et en même temps, on a plusieurs décisions de justice, comme dernièrement donc l'arrêt du 4 mars 2020 de la Cour de cassation, qui a requalifié un contrat de partenariat entre un chauffeur indépendant en contrat de travail. Mais c'est pas que le cas en France, c'est le cas aussi dans d'autres pays. Donc on a une controverse vraiment sur le statut des chauffeurs, et on a l'impression en effet qu'ils sont dans un statut hybride, c'est-à-dire que d'un côté ils assument les risques de l'indépendance, s'ils travaillent pas, s'il y a pas de clients, s'il y a pas de demande, de fait c'est eux qui perdent de l'argent, et en même temps ils bénéficient pas forcément de la liberté associée à ce statut d'indépendant. Pour reprendre un peu là le témoignage précédent,
Malik.
Ce profil, oui, il existe, mais il est quand même extrêmement marginal, parce que là en effet pour lui ça correspond, parce qu'en fait son activité principale, peut-être même qu'il n'en vit pas, mais c'est quand même rappeur, en tout cas c'est à ce métier là qu'il s'identifie. Donc ça devient le métier de chauffeur devient une activité d'appoint qui permet de gagner sa vie et de finalement s'articuler autour de son activité qu'il juge principale, qui est celle de rappeur. Dans la plupart des cas, c'est pas le cas. La plupart des cas, c'est des chauffeurs qui travaillent 60-70 heures par semaine et qui en fait n'ont pas une aussi grande liberté en matière d'organisation de leur temps de travail du fait des majorations. Vous savez, c'est cette logique de quand il y a des périodes où les tarifs sont plus élevés, justement pour inciter les chauffeurs à se connecter, à aller dans certaines zones, parce qu'on manque de chauffeurs par rapport à la demande. Et en fait, ces majorations, elles interviennent plutôt le matin très tôt, plutôt en fin de journée, plutôt la nuit, plutôt le week-end. Mmh. Donc, par exemple, si vous avez une vie de famille, c'est quand même pas l'idéal. Donc, en fait, même cette autonomie dans l'organisation du temps de travail, elle n'est pas si évidente. Donc, ils fixent pas leurs tarifs non plus, ils peuvent pas choisir leurs courses, ils peuvent pas refuser les courses.
C'est ça, il y a plusieurs critères, effectivement, le fait de pas pouvoir choisir ses tarifs, le fait de pas pouvoir se constituer une clientèle propre, et puis plus encore, le fait d'avoir un rapport de subordination, Arnaud Cudenec, et là il faut peut-être définir ce qu'on entend par rapport de subordination, parce que c'est là-dessus que s'appuient les décisions de justice en faveur d'une requalification en salarié de ces chauffeurs Uber.
La relation salariale, en fait, c'est trois critères. C'est donc une prestation de travail, évidemment, une rémunération, et justement ce rapport de subordination. Et en fait, lui-même a trois dimensions, donc en fait une forme de direction. On rapporte à quelqu'un un contrôle et enfin une possible sanction. Et en fait, on voit bien que cette direction, ce contrôle et cette sanction apparaissent dans le modèle d'Uber, notamment par le rapport avec les algorithmes. Typiquement, ces travailleurs ne sont pas totalement libres de la forme de leur activité. Ils peuvent être contrôlés par la traçabilité des données, ils peuvent avoir une sanction, c'est-à-dire le blocage de l'accès à l'application, par exemple, en cas de manquement à tel ou tel ordre issu de l'algorithme. Mmh. Donc, effectivement, comme l'a dit Sophie Bernard, il semble être dans un entre-deux, finalement, entre le rapport salarial et le rapport d'indépendance. C'est-à-dire, d'un côté, ils n'ont pas tellement la protection du salariat, mais en revanche, ils ont cette situation de contrôle.
Alors, est-ce qu'il faut inventer un nouveau statut entre le statut d'indépendant et celui de salarié? On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, est-ce qu'il faut voir dans cette économie des plateformes un retour au travail journalier? Au 19e siècle, les mineurs vendaient chaque matin leur force de travail. Écoutez cet extrait de Germinal, le film de 1993, de Claude Berry, adapté du roman d'Émile Zola. Étienne Lantier, personnage principal et mineur de charbon, a décidé de continuer la grève pour améliorer les conditions de travail, mais le tenancier rationneur, lui, y est opposé.
Alors, si j'étais un mouchard, comme tes amis le disent, je t'aurais déjà envoyé les gendarmes.
Je le sais, va. On peut ne pas avoir les mêmes idées et s'estimer tout de même. Les Belges sont arrivés. Demain matin, c'est eux qui apprennent le travail au Voreux.
Ouais. On les a débarqués à la fin de la nuit. Pourvu qu'on se tue pas encore. Si vous vous entêtez, tout ça finira dans un bain de sang. Tu verras, j'avais raison.
Je le sais aussi bien que toi que la grève est fichue. C'était fatal, on l'avait faite à contre cœur. Seulement on se grise. On se met à rêver à des choses. Et quand ça tourne mal, on oublie qu'on aurait dû s'y attendre.
Alors, si tu crois que la partie est perdue, pourquoi tu fais pas entendre raison aux camarades?
Chacun son idée. Moi, je continue à penser que si nous nous sacrifions encore, nos carcasses d'affamés serviront plus la cause du peuple que toute ta belle politique d'homme sage.
Sophie Bernard, la rhétorique justifiant le travail journalier à l'époque n'est pas si différente de celle d'aujourd'hui. C'est l'idée de faire de l'ouvrier un entrepreneur de son travail personnel, selon votre expression?
Oui, tout à fait. Il s'agit de faire du travailleur un entrepreneur de soi-même. L'idée qui finalement étant qu'il devient responsable de son chiffre au quotidien. Et donc il est responsable, autonome de ce point de vue-là, mais avec tous les risques associés dans ce cadre-là. Donc en même temps, on voit bien justement toute la précarité de ces journaliers du 19e siècle. Et la situation qu'on peut retrouver quand même un peu aujourd'hui avec ces
rapports de force totalement asymétrique.
Ah oui, complètement. Et dans le sens où justement ils ne bénéficient pas de l'autonomie pour pouvoir négocier leurs tarifs, notamment, c'est un élément quand même important. Et puis ils peuvent être, comme ça a été dit tout à l'heure, sanctionnés et suspendus, leur compte suspendu du jour au lendemain. Donc ils sont vraiment dans une incertitude totale pour le coup.
Alors si l'on veut resituer le travail à la tâche dans l'histoire, il faut dire, Arnaud Cudennec, que ce tâcheronnage va occuper une place centrale dans les grandes entreprises, et cela jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ce sont finalement les 30 glorieuses qui correspondent au triomphe du salariat.
Oui, alors on voit l'apparition du salariat dès la fin du 19e, début 20e, et qui est arrivé de manière concomitante avec le développement de la protection sociale. Et effectivement, c'est la période de la grande entreprise, la période des années 60, notamment avec De Gaulle et la politique des grands champions, qui a permis vraiment de développer ce système du salariat. Aujourd'hui, il faut le rappeler peut-être que le salariat concerne toujours 9 personnes sur 10, 9 actifs sur 10, et il garantit cette protection sociale. Mais ses sources remontent quand même à la fin du 19e et l'émergence en fait de l'entreprise comme forme d'organisation du travail, qui n'a pas toujours existé finalement.
Et en quoi la théorie de la firme de l'économiste Ronald Coase permet-elle d'éclairer les choix des agents économiques qui peuvent soit s'organiser en entreprise, soit faire appel à un travailleur indépendant, Arnaud Cudennec?
C'est ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, d'avoir des entreprises autour de nous semble totalement naturel. Mais ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire économique. Et la théorie économique a d'ailleurs pendant longtemps ignoré les organisations. Elle a vu l'entreprise comme une sorte de boîte noire où rentrent des ressources et sortent des produits et des services. Et en fait, à la fin du 19e, on a vu l'émergence du modèle de l'entreprise, voire de la grande entreprise. Et c'est C'est pourquoi l'historien d'ailleurs Alfred Chandler parlait de la main visible des managers qui aurait remplacé la main invisible du marché. Et en fait, dans les années 30, un jeune économiste, Ronald Coase, qui recevra plus tard le prix Nobel en 91, le prix de la Banque de Suède, a posé une question très simple en fait. Pourquoi dans une économie de marché, il y a des entreprises ? Et en fait, pourquoi donc, du coup les acteurs n'ont pas recours au marché pour effectuer leurs transactions au lieu de réaliser leurs activités dans une hiérarchie, dans une organisation ? Et en fait, il remettait en cause la théorie néoclassique qui voudrait que les marchés soient efficients et que le recours au marché ait un coût totalement nul. Mmh. En fait, il montre que recourir au marché suppose des coûts de transaction. Voilà. Et donc, pour finir finalement sur ce modèle, en fait, les coûts de transaction, c'est quoi ? C'est les coûts de prospection, de négociation, de protection contre les risques.
Autant de coûts qui font que l'entreprise est finalement plus rentable, c'est cela ?
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, il y a un arbitrage. C'est finalement, si les coûts de transaction viennent d'augmenter, alors il devient avantageux de faire soi-même la tâche. Et donc c'est là qu'apparaissent les entreprises. Pourquoi il y a des entreprises ? Parce que les coûts de transaction sont trop élevés.
Sauf que ce que vous expliquez, c'est qu'avec les innovations technologiques, l'équilibre s'est déplacé en faveur du marché qui est devenu moins cher que les firmes et leurs coûts d'organisation.
Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que recourir à l'entreprise suppose également des coûts. Des coûts de coordination, de contrôle, etc. Et donc en fait, la théorie de Ronald Coase permet de comprendre qu'il y a un équilibre entre les organisations et le marché. Cet équilibre est menacé par l'économie des plateformes, puisqu'en fait, les plateformes sont un formidable outil pour réduire ces coûts de transaction. En fait, aujourd'hui, pour Uber, recourir au marché du travail a un coût quasiment nul. Et donc, en suivant en fait la théorie des coûts de transaction, on peut comprendre pourquoi il est plus simple finalement d'avoir une sorte de marché d'individus qui sont sur des marchés de manière totalement atomisée plutôt que organisés comme des employés au sein d'une organisation, de la grande organisation telle qu'elle existait à la fin, au début du XXe.
On peut le comprendre et en même temps on peut se demander aussi qui tire véritablement parti de cette économie des plateformes, parce que d'un côté les travailleurs sont peu payés, on l'a dit, mais de l'autre les entreprises comme Uber et Deliveroo ne font toujours pas de bénéfices, Sophie Bernard. Alors comment se partage la valeur ?
Alors sur le calcul des bénéfices en effet de Uber, en même temps c'est extrêmement compliqué pour le coup de rentrer là-dedans. Je vais pas pour le coup rentrer dedans, mais c'est vrai que actuellement en effet ils ne font pas de bénéfices. Après il faudrait rentrer véritablement dans les chiffres, ce qui est pas forcément évident. Et puis ils misent aussi pour la suite quand même beaucoup sur l'automatisation. C'est-à-dire que l'objectif quand même in fine c'est de ne plus avoir de chauffeurs. Ils ont énormément investi justement dans tout ce qui est voiture automatique, et donc les questions de travail, de conditions de travail dans ces cas-là pour eux ne se poseraient plus.
Parce que malgré des faibles salaires, c'est quand même les salaires versés aux chauffeurs qui pèsent le plus sur les comptes de Uber par exemple.
Bah, ils ont très peu de personnel de fait par ailleurs en réalité. Donc c'est vrai que il y a ces coûts qui sont versés, ces sommes qui sont versées aux chauffeurs. Après en même temps Uber touche systématiquement 25% d'un travail qui est réalisé par d'autres sans qu'ils aient à contrôler quoi que ce soit.
Mais vous avez raison de dire somme et pas salaire puisque précisément c'est tout le sujet.
Mais ce qui est un effet intéressant pour reprendre ce qui était dit avant par Arnaud Kudenek, c'est que on est en effet passé fin 19e début 20e d'un capitalisme marchand à un capitalisme industriel. Le capitalisme marchand justement, on est dans une période fin 19e où c'est le tâcheronnat, le marchandage qui sont extrêmement présents. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que du travail à la tâche en fait. En réalité, les tâcherons, quand on parle des tâcherons du 19e siècle, en fait, ce sont des personnes auxquelles le capitaliste, qui est commercial à ce moment-là, s'adresse pour lui demander la livraison et la fabrique d'un produit. Mais le tâcheron, en fait, joue le rôle d'intermédiaire. En fait, lui, il vend un produit final, mais c'est à charge à lui de trouver la main-d'œuvre qui va produire les produits demandés. Donc, c'est pas forcément lui qui accomplit la tâche, en réalité. Et en fait, ce qui domine à la fin 19e, c'est plutôt ce profil-là des sous-entrepreneurs de main-d'œuvre, en fait. qui sont un intermédiaire entre le capitaliste et puis des travailleurs. Et ensuite, on va passer. Donc là, le capitalisme est marchand au sens où en fait, le capitalisme ne s'occupe pas du contrôle des travailleurs, de la discipline. Mmh. Finalement, il achète juste un produit final. C'est le tâcheron qui va s'en charger.
Mais on va passer ensuite, au capitalisme industriel.
Voilà, où là, il s'agit justement de contrôler les travailleurs pour obtenir justement pour en tirer le maximum de profit sans passer par un intermédiaire.
Mais alors comment, dans ce système économique qui est le nôtre, permettre à ces travailleurs indépendants à la fois de profiter de cette flexibilité qui leur est offerte et en même temps d'avoir accès à une certaine sécurité? On en parle dans un instant.
SPK. Shouts to my Uber Eats gang. Yeah. Woke up Sunday morning tipsy. Last night got a little bit too reckless. But it's 10:30, which means that's not too late for a Maddie's breakfast. SOS man down. Gonna need 8 hash browns. 2 paintings in my bedroom. Any requests, better make that now. I'ma need 4 McMuffins. She said 4. I said, don't judge me. Truth is, I would've got more, but I want a Nando's later. Man's hungry. Thank God for the Uber Eats. Saeed's on the way to save the day. 2 super freaks in lingerie. Not all heroes wear a cape. Add your pancakes to the basket, place your order, say no more. We got 15 minutes of fun before I gotta meet Saeed at the door. Then my boy walks into the room like, did you just order food without me? Better double up that order, add a fruit bag and a chocolate brownie. 3 minutes too late and I'm getting pissed off watching the clock. Gonna end up on the block in socks and slides, I think he's lost. Where you at, my dog? It's been time, I hope it's hot. He says I'm outside and I thank God when I hear him knock. More time Uber Eats, but I might do a Deliveroo. Aye, who loves Uber Eats? I can't lie, I do. Papa John's or Pizza Hut, cause Domino's kept on letting me down. Gotta have faith in your rider, 24/7, they're always around. Curry goat rice and peas, saltfish patties, bun and cheese. Could have been a cookie dough from Creams, you know I gotta get that by any means. 4 bills in a month's unhealthy, if you spend it on Donna and chips. But summer's round the corner, so I gotta get salad with a mixed shift. More time Uber Eats, but I might do a Deliveroo. Jollof rice and beef stew, I still ain't tried the fufu. Not yet. Morley's or chicken cottage, cause KFC kept letting me down. But I have faith in your rider, 24/7, they're always around. Hey. Yeah.
France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était Uber Eats de Marcello sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. On continue à explorer l'économie des plateformes en compagnie des sociologues Sophie Bernard et Arnaud Kudennec. Alors on l'a dit, les contentieux se multiplient aujourd'hui en raison du manque de protection sociale de ces travailleurs des plateformes numériques. Il faut dire, Arnaud Kudennec, qu'en France, la cotisation passe toujours par le salariat.
En effet, et le système du salariat permet cette protection donc pour le travailleur, et tout l'enjeu est de savoir si ces travailleurs doivent être placés sous le régime du salariat ou alors un régime hybride. Il existe déjà des régimes hybrides, ou savoir si il faut en créer un particulièrement adapté à ces nouvelles formes de travail.
Mais ce qui est intéressant, c'est ce rapport de 2020 du Sénat qui estime qu'il y a un décalage entre un taux de prélèvement élevé de ces travailleurs et la faiblesse des bénéfices en termes de droits sociaux. Et ça, ce sont des défaillances qui préexistaient à la pandémie, mais que la crise du Covid a révélé au grand jour, Sophie Bernard.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la pandémie, les chauffeurs en fait prennent aussi conscience de la précarité de leurs conditions et de leur incertitude et de l'absence de protection qui est la leur. Après, en effet, il y a de nombreux débats à l'heure actuelle sur leur statut, avec l'existence en effet de statuts intermédiaires comme en Espagne par exemple, d'autres statuts aussi qui existent au Royaume-Uni. Et la question s'est posée en France et a fait l'objet de nombreuses controverses.
Alors, on va entrer dans le détail, effectivement, de ces controverses. Juste avant, je voudrais vous faire entendre le témoignage de Jérôme, qui est coursier à vélo et qui a découvert un jour qu'il pouvait prétendre, justement, à un statut de salarié.
J'étais censé être libre. Il m'avait vendu que je serais libre, que je serais mon propre patron, que je pourrais bosser quand je veux, Mais je me suis aperçu que je bossais quand je veux, certes, mais que quand je bossais, il fallait que je bosse de plus en plus. Et quand je bossais, les conditions de travail étaient juste aberrantes. En fait, j'étais plus du tout libre. J'étais noté, j'étais sanctionné, j'étais suivi, j'étais équipé de tout un tas de choses. Et quand j'en ai parlé un jour à un ami qui me dit « Alors, ton nouveau boulot, ça se passe bien ?» Je lui ai raconté comment je bossais. Je lui ai dit que j'étais fatigué, j'avais perdu 10 kilos en un mois. Et il m'a dit « Mais tu devrais en parler à un pote, on a un pote juriste. » En fait, j'ai rencontré un pote juriste et je lui ai parlé de ça. Et c'est lui qui m'a expliqué ce que j'étais. Il m'a dit « T'es pas livreur indépendant. » Il m'a dit « T'es salarié, en fait. » La façon dont tu travailles, tu me dis « En effet, t'as signé un gros contrat, tu dois porter un uniforme, t'es géolocalisé, c'est pas toi qui fais tes factures. » Il me dit mais Jérôme, t'es salarié. C'est la façon dont tu travailles qui définit ce que t'es. Parce que dans le contrat, je vous promets que le lien de subordination, il est marqué à chaque page, quoi. Mon avocat me l'a dit un jour, il m'a dit « Mais à chaque page, il y a une animation. Oh là, t'as pas le droit de faire ça. Oh là, tu dois faire ça. Tu dois t'habiller comme si. Tu dois dire ça à l'interphone. Dire bonjour, je suis Jérôme, votre coursier, toc, toc, toc. Je devais dire ça. »
Voilà un extrait de la série documentaire de Martine Abba et Rémi Douat qui a été diffusée le 14 mars 2017 sur France Culture. Alors le cas de Jérôme n'est pas isolé. Les actions en justice se multiplient. Vous l'avez dit, en mars dernier, il y a eu une requalification par la Cour de cassation d'un chauffeur Uber, donc requalification en salarié en s'appuyant sur le fameux lien de subordination. Mais d'autres pays font d'autres choix. Sophie Bernard, parlez-nous de ces statuts hybrides en Espagne et au Royaume-Uni.
Alors en Espagne, en effet, il y a un statut hybride. Donc vous avez le statut de travailleur indépendant, économiquement dépendant. C'est une question qui s'est posée en France aussi, de créer ce statut hybride qui se pose encore aujourd'hui. Mais les juristes y sont souvent opposés, au sens où ils considèrent qu'à partir du moment où on crée un statut intermédiaire comme celui-ci, le risque, c'est finalement qu'il devienne extrêmement attractif et que cette catégorie vienne à grossir et à vider finalement la catégorie salariée, et donc on est finalement une catégorie de travailleurs qui soit malgré tout moins protégée que des salariés, davantage que des travailleurs indépendants, mais moins que des salariés. Donc c'est le risque que de remettre en cause en fait cette dichotomie. Et au Royaume-Uni, en fait, on a trois statuts différents, self-employed, les travailleurs indépendants, et on a les workers et employees. Et alors il n'y a pas d'équivalent vraiment en droit du travail français. En fait, les employés sont définis comme les personnes qui bénéficient d'un contract of employment. Et donc, les employés ont le droit à toutes les protections inscrites dans la législation du travail, dans les accords collectifs. C'est le plus protecteur. Et ensuite, les workers, ils sont placés dans un lien de subordination, mais n'ont pas ce contrat, et donc ont accès à un socle réduit de droits. Et la question aujourd'hui qui se pose notamment, donc il y a un procès en cours depuis quelques années au Royaume-Uni, c'est est-ce que les travailleurs des plateformes sont des self-employed, des indépendants, ou des workers, donc cette catégorie qui n'est pas celle des employés.
Des débats qui sont effectivement arrivés en France. La ministre du Travail a lancé en janvier une mission destinée à réfléchir à une meilleure représentation des travailleurs des plateformes. Et le groupe communiste au Sénat a déposé un projet de loi en juin dernier visant à les requalifier en salariés autonomes. Mais comment expliquer que pour l'heure, Arnaud Cudennec, rien de tout cela n'est abouti ?
Disons qu'il y a différents intérêts pour différents acteurs, c'est-à-dire que les plateformes refusent ces nouveaux statuts, ou du moins d'avoir à se conformer au statut de salarié, puisque ça augmenterait tout de suite leurs coûts liés au travail. On estime à 30% notamment une augmentation des coûts de travail. D'un autre côté, on a pu le voir dans votre reportage, en fait, les personnes elles-mêmes qui travaillent ne savent pas qu'elles peuvent recourir à ces qualifications. Et un moyen, un vecteur en fait d'information pour ces personnes serait l'organisation syndicale. Mais on voit également que les syndicats ont parfois du mal à faire entendre leur voix, puisqu'en fait, ils sont face à une force de travail qui est largement atomisée, en concurrence entre elles, de faible ancienneté, etc. Donc il n'y a pas forcément de voix commune pour faire entendre leurs intérêts. Et en même temps, il faut être aussi clair sur les enjeux économiques que serait d'imposer le format du salariat. Ce serait probablement une destruction de leur business model et donc une destruction des plateformes, ou du moins une polarisation pour les plateformes qui ont réussi le mieux, donc qui ont déjà un marché. Et donc, il faudrait voir les conséquences économiques de plus long terme sur l'emploi.
Mais est-ce que
donc,
ce modèle économique,
puisque chacun,
est-ce que ce modèle économique des plateformes n'est pas déjà remis en cause par les décisions de justice qui se multiplient? Si jamais la plupart des travailleurs de ces plateformes vont en justice et obtiennent gain de cause, les grandes plateformes vont avoir des problèmes, Arnaud Cudennec.
Eh bien, en fait, c'est pas tellement ce qui se passe. C'est-à-dire que le cas de la Cour de cassation qui avait statué pour le statut finalement d'employé concerne une seule personne, et après il y a eu une centaine de dépôts de cas auprès de la justice, mais finalement il n'y a pas de recours massif à la justice concernant ce débat. Et donc pour le moment il y a un flou que vont continuer à entretenir ces plateformes. Et on voit également aux États-Unis, donc récemment, le 3 novembre, la proposition 22 a été adoptée. Donc,
alors, il faut expliquer, Arnaud Cudennec, effectivement, alors, la proposition 22, il faut revenir au tout début de l'histoire, parce que, en Californie, il y a d'abord eu la loi AB5, qui intime les entreprises de la gig economy à considérer leurs travailleurs indépendants comme des salariés. Cette loi est entrée en vigueur en janvier dernier. Puis, il y a eu une fronde qui a été menée, entre autres, par les plateformes Uber et Lyft. Et c'est face à cette fronde qu'un référendum a été organisé le 3 novembre pour trancher la question. Et les électeurs de l'État ont voté à 58% en faveur du maintien du statut de travailleur indépendant. Alors, effectivement, la question qui se pose, c'est comment interpréter ce résultat qui peut étonner, Arnaud Cudennec.
Oui, alors il faut aussi rappeler que c'était l'une des campagnes les plus chères de l'histoire, finalement, en Californie. En fait, ces quatre plateformes, Uber, Lyft, DoorDash et Instacart, ont dépensé au total 200 millions de dollars pour cette campagne en faveur du oui, contre 20 millions pour les partisans du non. Et donc, c'est aussi pour montrer qu'il y a une asymétrie de pouvoir dans ce marché et dans les conséquences politiques, finalement.
Quelle était cette proposition 22
aussi
Arnaud Cudennec, pardon de vous couper, mais quelle était cette proposition des plateformes numériques?
Donc très simplement, la proposition 22 visait à contredire finalement l'application de l'AB5, donc la précédente loi qui favorisait le statut d'employé au détriment du statut de contractuel. Donc la proposition 22 visait à annuler l'application de l'AB5 dans les cas de ces plateformes. Donc concrètement, il s'agissait finalement d'instituer le fait que les travailleurs étaient bien des contractuels, des indépendants et non des salariés.
Mais il y a eu un certain compromis tout de même qui a été fait de la part de ces plateformes numériques, et notamment le fait d'accepter, d'accorder un salaire minimum sous certaines conditions aux chauffeurs.
Voilà. Oui, c'est ça. Donc il faut également préciser qu'il y avait des contreparties, c'est-à-dire qu'en fait, on maintient ce statut de contractuel et en même temps, ils s'engageaient à une certaine protection sociale. Un salaire minimum, une assurance contre les accidents, une couverture santé, etc. Aujourd'hui, la stratégie de Uber consiste à parler du modèle IC+, donc Independent Contractor plus Some Benefits. Et toute l'ambiguïté derrière ce jargon, en fait, est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce Some Benefits. Et de fait, les situations vont évoluer entre les différents pays, puisque bien que ces plateformes soient internationales, en fait, les droits restent largement nationaux. Et donc, il y aura une différence entre chaque pays.
Mais là, ça dépend du pouvoir de négociation. Et j'en reviens à ce que vous disiez, Arnaud Cudennec, sur les syndicats. Je voudrais vous entendre là-dessus, Sophie Bernard, le fait que, effectivement, ces travailleurs des plateformes numériques ont du mal à se réunir et à mener une action syndicale.
L'action syndicale, en effet, des travailleurs des plateformes se révèle particulièrement difficile parce que, de fait, ce sont des travailleurs indépendants. Donc, par exemple, on n'a pas de permanents syndicaux qui pourraient bénéficier de rémunération, de compensation financière ou de décharges liées à leur activité syndicale. Donc, ça veut dire qu'ils doivent cumuler avec leur activité professionnelle, leur activité syndicale, qui leur prend énormément de temps, et sont confrontés, en effet, à des chauffeurs, dans le cas de Uber, qui sont isolés, indépendants, qui peuvent être parfois dans une logique aussi de plus de concurrence parfois, qui sont souvent jeunes, avec une tradition, une absence de tradition syndicale. Enfin, donc c'est extrêmement difficile de mobiliser cette population, et ça veut dire aussi que eux doivent être prêts à s'investir énormément dans cette activité, parce que ils passent un temps considérable, notamment en négociation, à mobiliser les chauffeurs, et on voit progressivement leurs actions qui se sont transformées. Aujourd'hui, c'est vrai que au début, on a vu beaucoup, à partir de 2015, beaucoup de manifestations. On avait étudié ce mouvement avec ma collègue Sarah Abdelnour. Beaucoup de manifestations, et notamment à propos des tarifs. C'était un peu le mot d'ordre. Et aujourd'hui, en fait, le combat en fait se déplace au prud'homme pour obtenir des requalifications et jouer aussi, dans ces cas-là, dans le rapport de pouvoir face à ces plateformes qui ont en effet un énorme pouvoir et des moyens contre lesquels il est difficile pour eux de lutter.
Mais comment expliquer que les recours à la justice soient si peu nombreux, Sophie Bernard, par manque d'informations, comme disait Arnaud Cudennec, ou par justement manque de mobilisation syndicale et d'action collective?
Alors là, la grosse majorité là des demandes de requalification sont portées par des syndicats qui accompagnent des chauffeurs qui doivent faire une démarche individuelle. On n'a pas de class action comme aux États-Unis. C'est chacun qui doit faire une demande, et ça suppose quand même d'avoir aussi tout un tas de documents, d'antécédents dont il n'est pas forcément facile de disposer, et toute une série d'indices. Donc déjà, on a un certain nombre de personnes où ça va être compliqué pour eux de rentrer un peu dans les cases. Et puis, en effet, il y a l'idée que un grand nombre d'entre eux, en fait, ne sont pas forcément même informés qu'il est possible de mener une action de ce type-là. Et puis, il y a aussi un turnover assez important aussi dans le métier. Donc, beaucoup, en fait, à partir du moment en fait où ils ne s'en sortent plus, quittent simplement le secteur. Donc, ne vont pas s'engager dans une action au prud'homme. Mais ça, c'est valable pour tout un tas d'autres secteurs. Pour le coup, ceux qui s'engagent dans des actions au prud'homme, c'est pas du tout massif, en fait.
Le succès de l'auto-entrepreneur est en passe de devenir un phénomène de société. Je pense que c'est un succès, car ça correspond à une aspiration profonde de la société française que je voudrais résumer d'une formule: se prendre en main. Faire confiance aux gens, ne pas les matraquer de formalités et de charges avant même qu'ils aient commencé à travailler, c'est refuser de les assister malgré eux.
Voilà, Nicolas Sarkozy se félicitant en 2009 du succès du statut d'auto-entrepreneur, un statut qui en réalité a donné lieu à beaucoup d'abus, ce qui illustre, Arnaud Cudennec, cette difficulté à trouver un juste statut pour ces travailleurs indépendants.
Oui, alors on peut souligner effectivement qu'il y a une forte dynamique du statut d'auto-entrepreneur. Néanmoins, on peut également voir que aujourd'hui on a environ 60% des auto-entrepreneurs qui sont économiquement actifs et avec un revenu moyen d'environ 10 000 euros par an. Donc finalement, ça offre des opportunités à certains et c'est très bien. En même temps, on peut pas forcément faire un modèle. Au sens où, dans tous les cas, il faut pouvoir assurer une protection sociale à tout travailleur.
Et alors, ce que vous soulignez, Arnaud Cudennec, c'est que on peut inventer un nouveau statut pour ces travailleurs qui seraient à la croisée des chemins entre salariés et indépendants, mais encore faut-il réussir à définir les acteurs de la gig economy. Et le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué, comme on le disait au début de cette émission, entre d'un côté les travailleurs du clic, de l'autre les chauffeurs Uber. La diversité aussi rend plus difficile la mise au point de ce statut.
Oui, et puis comme on l'a vu, la diversité également des travailleurs et des intérêts, des raisons pour lesquelles ils se connectent aux applications. On a parlé par exemple du lien qu'ils avaient avec les syndicats, le fait qu'ils n'avaient pas forcément d'informations, etc. Mais aussi, on pourrait comprendre que beaucoup de travailleurs ne veulent pas avoir de lien avec les syndicats, ne veulent pas forcément aller en justice, veulent garder une forme d'indépendance, et ils veulent quitter la plateforme quelques mois après avoir commencé leur activité pour simplement lisser leurs revenus. Donc les situations sont tellement hétérogènes qu'il est difficile finalement d'y voir clair pour le juriste.
C'est effectivement, ce sont ces intérêts contradictoires entre certains qui veulent la flexibilité car ils ont un emploi à côté, un autre emploi à côté, ceux qui veulent la stabilité. C'est cela qui empêche aussi cette mobilisation syndicale. Alors, on arrive au terme de cette discussion. Sophie Bernard, un dernier mot peut-être sur ces nouveaux travailleurs indépendants et sur le fait que certains tentent de contourner les géants du numérique en créant des plateformes indépendantes. C'est encore marginal, mais est-ce que c'est un phénomène qui pourrait prendre de l'ampleur ?
C'est un phénomène qui pourrait prendre de l'ampleur, mais encore une fois, on est dans une asymétrie qui est très forte, puisque il est très dur de lutter face à Uber, qui a des capacités de communication extrêmement importantes par rapport à ces petites coopératives. Mais c'est vrai que les coopératives qui se constituent autour des livreurs à vélo, par exemple, constituent une solution intermédiaire plutôt avantageuse pour les livreurs, parce que pour ces travailleurs, parce que justement, ils bénéficient de l'autonomie dans leur travail et en même temps bénéficient des droits et des protections associées au statut salarié. Donc c'est vrai que dans l'idéal, ça paraît formidable, mais face à des géants tels que Uber, c'est extrêmement difficile de se faire connaître, notamment auprès des clients déjà.
Bien sûr, mais en tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour cette passionnante émission sur la gig économie dont on peinait à comprendre les enjeux. C'est désormais chose faite. Merci Sophie Bernard et Arnaud Cudennec d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tout de suite, c'est l'heure du journal de l'écho de Xavier Martinet.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Depuis une semaine, les annonces du vaccin anti-Covid se multiplient. S'ils ne sont pas la solution ultime contre le virus, ils pourraient être une arme décisive pour la reprise.
Et oui, vous vous souvenez, Tiphaine dit seulement une parole et je serai guéri, réclamait le centurion dans la Bible. Eh bien, c'est ce qui s'est produit pour les marchés financiers après les annonces de vaccins efficaces à 95% par les laboratoires Pfizer et BioNTech d'un côté et Moderna de l'autre. C'est la preuve de la faisabilité d'un vaccin, souligne la virologue Marie-Paul Kenny. Et c'est le signal qu'attendaient les investisseurs. Les bourses européennes ont enregistré des hausses de 4 à 8% le jour de l'annonce de Pfizer, les plus forte depuis le printemps. Exubérance réactionnelle classique, tempère l'économiste de la santé Frédéric Bizard. L'effet vaccin relance en effet un fort appétit de risque, indique un gestionnaire d'actifs à l'AFP, mais il entraîne aussi un rééquilibrage des valeurs avec des remontées brutales jusqu'à 15% pour les transports et les autres secteurs victimes de la crise, et à l'inverse des baisses parfois d'autant des indices des profiteurs de guerre, disons Zoom Vidéo ou les plateformes de livraison. Justice de la main invisible, donc le l'euphorie d'ailleurs ne touche pas que la bourse. Les réservations d'EasyJet ont fait un bond de 50% ce lundi après l'annonce du laboratoire Moderna. Les vacanciers aussi retrouvent donc le chemin des rêves.
Des annonces également prometteuses pour ce New Pharma qui met au point les traitements.
Oui, alors là, l'expression n'est pas attestée, mais c'est un peu comme le New Space dont on parlait hier, hein, Tiffaine, la rencontre d'une organisation industrielle un peu spartiate, d'une nouvelle technologie moins coûteuse et d'une très forte et urgente demande. Ainsi, parmi les 47 candidats vaccins recensés par l'OMS, ceux de Pfizer et Moderna utilisent une technologie nouvelle, c'est l'ARN messager, en fait des bouts d'instructions génétiques conçus pour cibler le virus. Cette recherche et développement accélérée a ainsi plusieurs conséquences sur l'économie pharmaceutique. D'abord, la coopération start-up laboratoires historiques permet d'innover vite et de produire en masse. Ensuite, un vaccin à ARN est plus rapide à produire qu'un vaccin à base de virus, mais il a aussi un fonctionnement low cost, puisque ce sont en réalité les cellules du patient qui en fabriquent la moitié, c'est-à-dire les protéines virales une fois injectées. Le laboratoire sous-traite ainsi une partie de la production chez le patient. Enfin, la validation de ces vaccins dopera peut-être la recherche sur d'autres vaccins ARN contre le virus Zika par exemple ou des traitements individualisés contre le cancer.
Mais il y a une contrepartie, ces vaccins plus fragiles pourraient ne pas être disponibles facilement.
Oui, outre les incertitudes sanitaires dont on ne discutera pas ici, l'organisation logistique est elle-même un grand défi, reconnaît Stoïc, un dirigeant d'Air France avec ses deux avions cargo, alors qu'il en faudrait 8000 selon France Info pour acheminer les milliards de doses nécessaires et que leur transport et stockage devraient être réfrigérés à moins 20 degrés, voire moins 70 degrés pour le vaccin de Pfizer. Viennent aussi les inquiétudes quant au partage mondial. Pfizer et Moderna ont annoncé déjà près de 2 milliards de doses pour l'année prochaine, mais si les 20 premiers millions d'Américains seront vaccinés avant le nouvel an, l'Union européenne, elle, ne vaccinera pas avant le début de l'année prochaine. Et puis, ces vaccins relativement chers, $40 par exemple pour les deux doses requises du vaccin de Pfizer, seront difficiles à financer pour les pays en développement. Or là, l'enjeu est crucial. Des universitaires américains ont calculé que si les États partagent en fonction de leur population, la mortalité mondiale due au Covid baisserait de 61%. Ce serait seulement d'un tiers s'ils le font en fonction de leurs revenus.
Alors y aura-t-il, Xavier, un effet vaccin sur la reprise ?
Eh bien, le vaccin permet déjà de fixer une échéance et faire de nouveau des projections en fonction du moment et de l'étendue de sa distribution. Ainsi, des pertes mondiales seraient divisées par 3 si un vaccin est disponible dès l'an prochain pour les principales économies, par 66 s'il l'est dans tous les pays développés, dit la Rand Corporation. Pour la France, le cabinet Asterès estime qu'un retard de 6 mois dans une campagne de vaccination qu'il fixe, lui, à mi-2021 coûterait 60 milliards d'euros de plus. Dans tous les cas, il n'y aura pas de rattrapage global, prédit la presse spécialisée. Aux États-Unis, les plus optimistes espèrent un retour au 3,5% de chômage dès le milieu de l'année prochaine. Mais le Wall Street Journal prévient, le vaccin ne relancera pas l'économie d'un coup. Certes, la croissance sera plus rapide et plus orientée vers les services, analyse un spécialiste. Mais en termes d'emploi, il faudra probablement attendre 2 ans avant un retour à la normale. Ainsi, avec le vaccin, l'accélération a laissé la place tant bien que mal à l'adaptation, constate l'INSEE mardi, mais la qualité de la croissance a changé. Fini les espoirs de reprise en V, c'est bien une reprise en K, et en K aplati avec des secteurs durablement touchés. Une croissance soumise, donc comme chez Salvador Dali, à la montre molle du virus.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr.
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am.
Stop. What the hell are you talking about?
Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn.
C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Marguerite Caton, Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne Depelchin. À la technique aujourd'hui, Nasser Moussaoui. Et un immense merci à vous, chers auditeurs, qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter. France Culture connaît sa plus belle vague de rentrée avec 3 points d'audience cumulés. Merci du fond du cœur. Demain, la réponse au coronavirus passera-t-elle par une politique européenne de la santé? On en discutera avec nos 3 invités, Henri Bergeron, Karine Milsan et Francesca Colombo. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.